Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.
Bonjour Guillaume Martinet, bonjour Margot Seigneuri et bienvenue dans le podcast du Cirque de Riga. Alors je sais que pour Guillaume, c'est la troisième fois ici à Riga pour le Riga Festival, si je ne m'abuse. Margot, c'est la première fois. Je ne vais pas être très galant, je ne vais pas être très poli, je m'en excuse. Guillaume, je voudrais commencer par vous demander comment se sont passées vos deux premières expériences, quels souvenirs vous en avez de votre passage au Riga Festival?
Eh bien bonjour et merci pour l'invitation. Ça s'est très bien passé sur les deux éditions du festival. C'était vraiment des... Le principal souvenir, c'était l'accueil, et on a aussi joué dans l'ancien bâtiment, qui était du coup un cirque en dur, dans lequel on a fait un spectacle qui était bifrontal. Du coup, nous, on avait coupé tout le monde, mais on avait tout le monde en circulaire. Et c'était vraiment une super expérience. Donc j'étais à la fois très heureux de revenir, parce que c'était la deuxième fois qu'on a fait le spectacle. Quand on a fait le spectacle en circulaire, c'était la deuxième fois qu'on venait déjà. Et là, je suis très content de revenir, parce que l'équipe est vraiment super, et ça nous permet de proposer toutes les œuvres au public d'ici. Du coup, il y a déjà une relation qui se crée avec le public. On a certains publics qui connaissaient déjà la compagnie, donc ça a vraiment beaucoup de valeur.
Et Margot, votre première fois ici, comment se passe-t-elle?
Ah bah très bien. Pareil, l'accueil est très 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 agréable. On est très bien accueillis. Et puis, on a l'occasion de pouvoir jouer les spectacles devant du public assez nombreux, donc c'est toujours un plaisir.
Quelques mots sur la compagnie des Fractaux. Elle est créée en 2008 avec l'ambition de créer un langage corporel et jonglé. Depuis, vous avez créé Ciné TikTok, Circuit Fermé, Flag, Dystonie, Yokai Kemame, Croûte. La compagnie est co-dirigée par vous, Guillaume Martinet, et Lorcaya pendant 15 ans. Et aujourd'hui, vous accueillez Loïs Delhomme à la co-direction et vous prenez un nouveau tournant en intégrant deux nouveaux artistes à la direction artistique, donc Margot Seigneuri, plasticienne, et Pierre Morel, photographe. Ensemble, vous souhaitez inventer une structure permettant de rassembler, unir et valoriser vos trois domaines de création pour développer le langage corporel et jonglé de la compagnie. Quand j'ai lu ça à propos de votre compagnie, je me suis demandé comment est née cette volonté de mélanger les arts. Est-ce que c'était parce que vous vous connaissiez auparavant et vous avez eu envie de collaborer? Ou est-ce que ce sont ces arts en particulier que Des Fractaux a voulu intégrer, donc la photographie et les arts plastiques? Et est-ce que dans l'avenir, si vous y songez déjà, il y a cette envie, cette volonté aussi d'intégrer d'autres arts?
Pour être complètement sincère, c'était quelque chose qui n'était pas intentionnel. L'idée, c'est de créer un langage corporel et jonglé. Et pour faire ça, intuitivement, dans ma pratique personnelle, je suis allé chercher des outils à différents endroits dans le corps. Parce qu'au départ, c'est quand même une pratique qui passe entre le corps et l'objet. Et pour pouvoir décider de ce qu'on exprime physiquement, il faut avoir des outils corporels, mais aussi des outils, je vais dire, sociaux. Et là, naturellement, je me suis formé en allant chercher dans la danse ou dans le théâtre pour pouvoir vraiment créer ma façon d'interagir avec l'objet, pour pouvoir créer quelque chose d'expressif. Et dans cet état d'esprit, on a collaboré avec beaucoup d'artistes différents. Donc sur chaque spectacle, c'est des équipes qui font les projets. Donc on a collaboré avec des musiciens, des gens en costume, des couturières, des costumières, des scénographes ou des créateurs lumière. Et dans cet état d'esprit, quand j'ai rencontré Pierre en 2008, j'avais besoin de faire du visuel pour la compagnie. Et au lieu de lui demander des photos avec mes idées, je l'ai invité plus comme un artiste en disant « on a vu que tu faisais du documentaire et que ton visuel il était vraiment super ». Moi, ce qui me parlait, c'était sa sensibilité. Donc j'ai dit « fais ce que tu veux ». Et nous, on a juste envie d'exploiter les images que tu vas faire, mais tu fais les images que tu veux. Et ce qui est sorti, c'était des choses à la fois très sensibles et très graphiques qui nous ont beaucoup plu dans la compagnie. Et on a travaillé ensemble jusqu'à maintenant. Donc pendant les 15 ans de la compagnie, on a travaillé avec Pierre. Ce qui fait que l'image de la compagnie et le graphisme, il a été créé par Pierre, par son investissement, par l'amour qu'il avait de la compagnie et par la relation à la fois de travail et de personne qu'on a créé. Ce qui fait que quand la compagnie a grandi et qu'on a voulu la faire évoluer, c'était très naturel de, quand je me suis dit que j'avais envie de travailler avec d'autres artistes pour faire la direction artistique, le nom de Pierre est venu de manière très intuitive parce que c'était l'artiste avec lequel j'avais le plus collaboré au final. Même si c'était de manière très intuitive ou implicite, parce qu'on faisait des choses qui avaient l'air très différentes. Mais au final, la collaboration, elle était très intime au vu du travail qu'on faisait. Intime vis-à-vis des œuvres. Et Margot, c'est une histoire qui ressemble. C'est-à-dire que Pierre incarne l'aspect visuel, photographique. Et Margot, on s'est rencontrés quand je travaillais sur un projet qui s'appelle Taiji, qui est un projet théorique. Et après avoir jonglé pendant 10-12 ans, j'ai trouvé une difficulté qui commençait à me tracasser, qui était comment est-ce que je peux me souvenir de choses que je ne sais pas faire. parce que la façon de mémoriser, elle était très corporelle. Je répétais beaucoup les mouvements et du coup, je pouvais les mettre dans le corps à un endroit très particulier qui me permettait de les mémoriser. Mais l'endroit de l'imaginaire était un endroit à la fois très fertile et mort. Parce que tout ce que j'imaginais pouvait être complètement perdu dans les limbes de ce qu'est une pensée que tu n'as pas tracée. Et du coup, l'idée, c'était de créer un outil pour ça, qui à la base devait être une notation, mais maintenant, c'est le projet de construire une langue, comme une langue humaine. Et ce projet qui était énorme, j'ai commencé à travailler dessus tout seul pendant 2 ans, et avec Margot, on était amis depuis 5-7 ans, et on avait tous les deux des vies très décousues de par nos professions. Et à un moment, Margot est venue m'aider sur ce projet. Et on a vraiment beaucoup accroché en travaillant sur ce projet, ce qui fait qu'elle est venue travailler avec moi comme un regard extérieur, ou comme une aide à la conception, ou comme deux passionnés qui sont dans l'atelier ensemble, à s'aider ou s'entraider. Du coup, des fois, Margot, elle faisait cobaye, des fois, elle était vraiment les doigts dans la conception des caractères. Ce qui fait qu'on a travaillé là-dessus. Et puis après, elle a vu tout le travail de typographie que je faisais, et du coup, elle a vraiment... Elle expliquera un petit peu qui elle est, mais du coup, vu qu'elle a un regard de plasticienne, elle a vu l'art que je faisais de manière très très différente. Et puis, on a eu envie de continuer à travailler ensemble, et puis de fil en aiguille, elle a fait la scénographie du nouveau projet. Et scénographie au sens très large, c'est-à-dire qu'elle fait les costumes, les objets, la scénographie aussi au sens strict du terme, la lumière, donc énormément de choses. Et du coup, cette collaboration a créé aussi un nouveau... comme un nouveau regard sur l'art qu'on faisait dans la compagnie, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement invisibles, donc mon travail de théorie ou de typographie, dans lequel Margot a donné vachement de crédit. Du coup, j'ai assumé ça d'une nouvelle façon, ce qui fait qu'il y a un tournant de la compagnie qui se profilait vers le plastique. Et quand on a restructuré la compagnie, notamment en accueillant Loïs Delhomme pour poursuivre la coordination et co-direction de la compagnie, l'idée c'était aussi de faire une équipe artistique qui puisse être plus permanente et porter des projets différemment. Et c'est comme ça, en réalité, que l'équipe s'est construite. Donc, en gros, les artistes associés que sont Margot et Pierre, et maintenant, Margot, elle est vraiment dans l'équipe de co-direction à porter des projets et à concevoir. Et Pierre, il est un peu plus distant, c'est notre artiste extérieur-intérieur, comme il a toujours fait. Cette équipe, elle s'est plus construite sur les relations entre artistes, plutôt qu'on a eu envie de mélanger des arts. Voilà, donc j'ai fait un détour assez long pour pouvoir expliquer que la façon dont on travaille dans la compagnie, c'est beaucoup plus à partir des relations ou à partir de points de départ plutôt qu'avec un objectif fini. Et c'est comme ça qu'on a créé cette relation de co-direction artistique et y compris de co-direction administrative.
Margot, du coup, comment ça s'est passé? Comment vous avez ressenti, comment ça s'est passé votre arrivée dans la compagnie, sachant qu'elle était déjà établie depuis plusieurs années?
Aujourd'hui, ça fait, je dirais, 3 ans que je collabore avec la compagnie. De très près. C'est à peu près la moitié de mon activité professionnelle, donc c'est un investissement qui est assez conséquent. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça touche de très près le domaine de la création artistique. J'ai vraiment les deux pieds dedans, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et sous des facettes assez larges, donc ça va vraiment, comme l'expliquait Guillaume, mais de la création complète de la scénographie à l'accompagnement dans les projets, le développement de la pédagogie aussi. Et c'est vrai que la palette, elle est très large, et les possibles, ils sont énormes dans la compagnie. C'est ça que je trouve vraiment chouette. Et puis c'est, voilà, cette ouverture possible sur, entre guillemets, des mondes un peu différents que celui du cirque. C'est-à-dire que ça, c'est la facette qui était la plus... C'est ce qu'a développé la compagnie depuis ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, le fait que Guillaume puisse laisser la porte ouverte à développer autre chose, et puis qu'il soit très ouvert à... justement à ce développement, à qu'est-ce qu'on peut construire artistiquement à partir du jonglage, par exemple. La porte, elle est vraiment grande ouverte, donc ça, c'est très plaisant. Ouais.
Vous venez de prononcer le mot enseignement, et Guillaume, vous avez parlé de Taiji.
Ouais.
J'ai vu aussi, en faisant mes recherches sur vous, que la théorie et l'enseignement, c'est quelque chose que vous souhaitez développer. Du coup, il y a ce projet Taiji, mis en place avec la Maison des Jonglages et Circus Nex, et également un projet d'édition avec Pierre Morel, justement, ou encore d'exposition avec vous, Margot. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces trois projets?
Dans l'histoire de la compagnie, on a commencé tout de suite, j'ai eu une pratique pédagogique tout de suite, parce que j'aime ça, et que, dédicace à Audrey Jacquiot, qui était la première présidente de la compagnie, ça s'est créé en même temps que l'art, en fait, la pédagogie. Donc c'était assez naturel, on a... porter un projet pendant une dizaine d'années avec Laure et Audrey de pédagogie. Et les nouvelles pièces croûtes, par exemple, la performance croûte, elle a été inspirée du projet pédagogique. Donc, petite chose rigolote. L'envie de faire de la pédagogie, c'était de rencontrer le public sur un autre degré que celui du plateau. Celui du plateau, il a à la fois une ouverture, c'est-à-dire que les gens peuvent interpréter, vu qu'on fait du travail d'art abstrait, peuvent interpréter comme ils le ressentent, avec leur culture et leur vécu. Ceci étant dit, les œuvres qu'on propose, elles sont quand même... travaillées, elles ont une structure, donc elles sont fermées en un sens. Alors qu'en termes pédagogiques, c'est l'aspect inverse. Et ce qui est passionnant pour moi, c'est que je viens avec des connaissances claires ou des choses que j'ai envie de partager, et en même temps, c'est très très ouvert ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Donc c'est ça qui stimule l'envie pédagogique et qui a donné envie de porter un projet pendant 10 ans, qui marchait bien et que j'ai arrêté pour pouvoir développer Croûte, parce que ça prenait quand même beaucoup d'espace et j'avais envie de continuer à développer ma pratique jonglée. Et quand j'ai arrêté la pédagogie, j'ai eu quand même une espèce de tristesse dans ma pratique personnelle d'artiste, parce que c'était très nourrissant de rencontrer les gens et de parler des structures, de parler de l'artisanat en fait, de la pratique. Ce qui fait que c'est de là aussi qu'est née l'envie de construire Taiji. Et Taiji, l'idée c'est réellement de trouver un outil qui soit en dehors de moi pour pouvoir transcrire des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Donc des choses que je n'ai jamais faites ou que je n'ai jamais vues. Mais pouvoir les écrire de manière structurée pour pouvoir les oublier et les relire. Donc c'est littéralement une notation. Et après, il y a une fascination pour les langues dans ma vie, ce qui fait que de voir comment les êtres humains communiquent avec des structures qui sont statistiquement viables, même si elles ne sont pas formellement toujours très stables, ça a donné quelque chose de très humain dans l'outil que ça pouvait devenir. Et en même temps, de très poétique et utile. Donc, Taiji, c'est ça l'origine, et maintenant, c'est l'idée, c'est de créer une langue, comme une langue humaine, qui s'écrirait entre le coréen et le japonais, et qui pourrait se prononcer avec une grande quantité de sons, qui sont des sons d'une langue humaine, et on travaille dessus avec Margot qui fait pas mal le regard extérieur. Et pour conclure sur le volet pédagogique, j'ai eu envie de reprendre la pédagogie grâce à Margot, qui, quand on travaillait sur Taiji, en fait, elle était globalement invisible dans la compagnie, alors qu'on travaillait beaucoup dessus. Et quand on a fait des associations avec des théâtres, on s'est dit « Oh, on pourrait proposer un projet pédagogique ». Et moi, j'avais mon ancienne vision qui était de finir la théorie et de la transmettre. Et Margot a eu un coup de génie de dire « En fait, on pourrait y aller avec des prototypes ». Et ça a quand même vachement... Ça a révolutionné la façon dont j'abordais la pédagogie avec le public. Et donc maintenant, je vais sûrement laisser Margot en parler, mais du coup, la nouvelle vision de la pédagogie, c'est Margot qui a donné l'étincelle de l'idée pour pouvoir la reconstruire et la redévelopper.
Et du coup, aujourd'hui, le projet pédagogique, donc comme l'expliquait Guillaume, avec Taiji, c'était vraiment de pouvoir travailler avec les gens. Et donc, comme disait Guillaume, non pas leur transmettre une théorie finie, mais de les faire participer vraiment au développement du projet, c'est-à-dire de leur faire, à la fois de leur transmettre là où on en était dans les recherches, de les faire essayer, et aussi de chercher avec eux les meilleurs moyens d'arriver au résultat qu'on souhaitait. Donc ça, c'est un projet qu'on a développé sur ces 2 dernières années avec le public, donc comme vous le disiez, avec la Maison des Jonglages à la Courneuve et avec Circus Next aussi, avec des publics très variés. Et ça, c'était vraiment chouette de voir à quel point le projet pédagogique qu'on amenait était accessible. Aussi, c'est ça qu'on voulait essayer, entre guillemets, avec ces publics, c'est de voir comment ça répondait, Qu'est-ce qu'eux, ils trouvaient à l'intérieur.
Ouais, parce que c'était un vrai défi. Après avoir fait 10 ans de pédagogie, il y a une nouvelle partenaire qui vient et qui retourne en disant, en fait, on peut le faire avec eux. Du coup, c'était un vrai saut dans le vide qu'on a fait ensemble, avec des outils anciens, de proposer à des gens de participer avec nous à construire quelque chose. Ce qui fait qu'on devait leur apprendre des choses qu'on avait faites avant. Mais vu que chacun est expert de sa langue natale, ils avaient des points de vue qui étaient à la fois très pertinents, ou ils avaient une raison. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à utiliser, ils avaient raison. S'ils n'arrivaient pas, on avait tort. Et du coup, on pouvait vraiment leur soumettre des nouvelles choses qu'ils pouvaient mettre à l'épreuve et avoir des opinions très, très précises.
Et la pédagogie dans la compagnie, moi, ce que Guillaume m'a transmis de ce qui avait été fait avant que j'arrive, c'était aussi beaucoup le rapport, de changer le rapport, je dirais, de sachant, en se plaçant pas comme un supérieur, mais vraiment comme un égal. C'est-à-dire, moi, j'ai appris des savoirs, et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir te transmettre ces savoirs, mais non pas comme un professeur qui sait, mais comme quelqu'un qui a juste une expérience supplémentaire. Moi, j'ai réutilisé vraiment cette idée en se plaçant de, on va faire ensemble. Et donc nous, on a juste eu cette idée avant, mais c'est presque un hasard, entre guillemets, d'expérience. Et donc, le faire ensemble, c'est vraiment ce que je trouve très très riche, et dans la pédagogie également.
C'est joli ce que tu dis parce que je le ressens comme ça aussi. De le point clé de la pédagogie, c'était de dire on est tous égaux, donc également capables, également sensibles, également intelligents, et c'est nos histoires qui nous différencient. Et du coup, la preuve que j'avais, c'est qu'on a tous appris notre langue natale et à marcher tout seul. Et ce qui était rigolo là-dedans, c'était mes preuves. Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que j'allais pas devant les gens en leur démontrant que c'était vrai, j'allais avec une conviction en disant, on va vérifier. Du coup, pour vérifier, il faut qu'on fasse ensemble. Et c'était ça tout le secret qu'il y avait de la pédagogie, c'était comment faire ensemble. Et moi, tous mes outils, c'était pour amener les gens à faire des trucs. Et une fois qu'ils les ont fait et qu'ils les ont expérimentés, moi, je mettais un mot dessus. Et une fois qu'on pouvait communiquer avec le même mot, on pouvait faire des nouveaux trucs. Et notamment des techniques de jonglage très subtiles ou des trucs un peu bizarres qu'on fait quand on fait de la création. Et ce que tu dis, ça touche vraiment exactement à ça, de faire ensemble. Et ce que Margot a amené comme décalage, c'était vraiment faire ensemble quelque chose de pas fini. C'est en fait, on crée ensemble une théorie qui avait énormément d'importance pour moi, personnellement, comme artisan-artiste, qui avait énormément d'importance pour Margot, parce qu'elle adore faire avec les gens et du coup transmettre. Et l'enjeu pour nous, c'était de convaincre les gens de cette importance du projet, pour qu'eux se mettent les mains dedans, pour nous faire de retour, avec des publics tellement différents que c'était très émouvant pour nous, au final, de se rendre compte qu'on était déjà avec des... On a été avec des étudiants de beaux-arts, des étudiants en typographie, on a été avec des travailleurs en situation de handicap léger, on a été avec des mères au foyer qui étaient dans une maison des langues, et chacun a apporté des choses, et je me souviens dans les mères au foyer dans la maison des langues qui étaient arabophones, elles nous ont fait des retours qui étaient d'une pertinence. Je t'avoue qu'entre les deux journées, je suis retourné travailler de dingue, et c'était très très fertile. Et c'est pour ça que je suis touché par ce que tu dis, parce que le fait de vouloir faire ensemble, je pense que c'est le point clé de la pédagogie.
Lorsque justement vous rencontrez ces différents publics, je me posais la question, mais je pense que j'ai eu plus ou moins une réponse, il n'y a aucune limite de catégorie, si ce n'est l'âge, tout le monde peut y participer. Et puis ensuite, lorsque vous vous rendez sur ces différents sites, lorsque vous rencontrez ces différents publics qui participent avec vous, qui travaillent avec vous, sur combien de temps ça se déroule? C'est sur une journée, une après-midi, sur une semaine? Et puis ensuite, est-ce que ces publics se rencontrent à un moment?
Pour l'instant, le cadre qu'on avait établi, c'était de le faire sur plusieurs journées consécutives. Donc ça, c'est le cadre que nous, on a instauré pour pouvoir...
Sur Taji, sur le projet Taji spécifiquement.
Ouais. Bien sûr. Pour avoir à la fois le temps de développer avec eux à la fois ce qu'on avait fait en amont, donc leur transmettre tout le matériel qu'on avait, puis chercher avec eux. Donc ça, on souhaitait le faire sur plusieurs journées consécutives. Jusqu'à aujourd'hui, les publics ne se sont pas rencontrés, puisque c'était des ateliers qui étaient séparés, donc avec des structures différentes, et ça ne s'y prêtait pas jusqu'à
même,
aujourd'hui.
Même dans l'espace, c'était des endroits différents, des villes. Du coup, ça pouvait être des gens en fait très, très différents, plusieurs cinquantaines de kilomètres d'écart, du coup.
Sur les différentes personnes qu'on a croisées, nous, on était très ouverts sur... Fallait juste que les personnes soient volontaires. C'était ça qu'on demandait avec les institutions avec lesquelles on a travaillé. Comme nous, on a envie de faire avec les gens, il faut qu'eux, ils aient aussi envie de faire des choses avec nous. Il ne faut pas qu'ils soient contraints. On n'a pas souhaité volontairement travailler avec des écoles parce qu'on trouve que le cadre ne permet pas forcément cette...
C'est une contrainte, quoi.
Ouais, c'est ça. On est déjà dans un cadre contraint avec une espèce de hiérarchie. Et ça, du coup, comme nous, on ne souhaite pas l'avoir, on se dit que ce cadre-là n'était pas forcément le... plus approprié, mais pour tout le reste, on n'avait pas de contraintes. Même les limites d'âge, on a travaillé également avec des enfants.
Guillaume, dans une interview donnée à Circus Next en 2021, vous dites ceci. « Pour moi, le jonglage, c'est du toucher. Comment je touche l'objet, comment je touche le sol, comment je me comporte vis-à-vis de l'objet. » Du coup, je me suis interrogé, est-ce qu'après des années d'expérience, vous avez une réponse fixe, ou du moins des éléments de réponse qui sont stables et permanents? Ou est-ce que ce rapport à l'objet et au sol, il est en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution, et se découvre à chaque spectacle, voire à chaque représentation?
Waouh. Ce qui est joli dans cette question, c'est que la réponse, elle est nécessairement compliquée. Il y a quelque chose de très stable dans ce rapport au toucher, au sol, à l'objet, presque par définition. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça le jonglage, parce que c'est ce que moi j'en fais. Donc, ça me permet aussi d'avoir le jonglage comme une chose qui est entière. Donc, pour aller droit au but, la façon de vivre le jonglage, qui est pour moi un artisanat qui fait partie vraiment maintenant de mon intimité et de mon corps, c'est de le voir tout le temps, partout. D'où l'idée de toucher les objets et qu'en fait, tous les objets font partie d'une pratique jonglée. Donc ça, c'est très stable. Ceci étant dit, il y a une profonde évolution dans comment je touche le monde qui est autour de moi. Et c'est ça qui permet d'avoir une pratique qui évolue ou qui n'est pas sclérosée à une façon de penser. Donc la stabilité, c'est plutôt comment le vivre. Et ce qui bouge, c'est en fait la pratique elle-même. Et ce qui est compliqué à répondre, c'est que je pratique toujours de la même façon. J'aime beaucoup répéter les mêmes choses. J'aime beaucoup me poser la question de qu'est-ce que c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le spectacle vivant. Parce que le spectacle vivant, quand j'écris un spectacle, je le recommence exactement pareil. Même si on en a un dont on va parler qui nous fait toujours rire, c'est Croûte. C'est toujours le même spectacle, mais vu qu'on fait une création à chaque fois, il est toujours différent. Donc en fait, on fait toujours la même création différente. Il n'y a que des phrases qui sont des paradoxes qui ne fonctionnent pas, mais qui sont absolument réels. Et je trouve que dans ma pratique jonglée, il y a ça globalement tous les jours. Donc je répète 5 fois par semaine, normalement, des routines que j'ai écrites il y a des fois 10 ans, des fois il y a quelques semaines. Et l'idée, c'est de les répéter tout le temps pareil. Mais en fonction des humeurs, j'avoue qu'il y a des jours où je jongle vraiment pas bien, mais je le fais quand même. Et ça, c'est quand même faire la même chose, même si en vrai, dans le résultat ou dans l'expression, ça pourrait être très différent. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, de très angoissant que les choses puissent tout le temps changer et qu'elles soient pas stables. Du coup, moi, d'avoir un rapport très stable, ça le rend très sécurisant. Et que cette chose-là soit quand même vachement en mouvement, ça me lie beaucoup au monde réel. Ce qui fait que ma pratique jonglée d'artisan, c'est quelque chose qui me permet de me lier au monde réel. Du coup, elle répond à cette nécessité de savoir où les choses sont, ou comment je me sens, ou d'avoir quelque chose à faire, ou de dépenser une énergie qui a une signification que je ne comprends pas bien moi, mais qui me permet de me relier au monde. Donc c'est ça qui est à la fois mouvant dans la discipline et très stable. C'est pour ça que je suis obligé d'aborder cette question dans les deux sens. Parce que ça me permet à la fois de faire de l'art, mais aussi de prendre soin de ma santé psychique, puis après de bouger, puis après de pouvoir avoir de l'espace de faire autre chose que du jonglage. Parce que même si je vois le jonglage tout le temps, y a un moment quand j'ai fait mes entraînements, et quand, notamment quand j'ai rencontré Margot et qu'elle me parlait de la typographie, pour moi c'était pas du jonglage. Alors que maintenant, tout le dessin que je fais, c'est du pur jonglage. Donc ça, c'est très nouveau. Alors qu'en fait, ça, comme Margot l'a dit, ça a toujours été.
Margot, du coup, c'est de par les propos que j'ai cités de Guillaume, est-ce que c'est une question que vous étiez posée auparavant, avant de commencer à collaborer ensemble, en tant qu'artiste plasticienne, est-ce que vous vous étiez posé ces questions du rapport au toucher ?
Oui, pour la petite histoire, moi j'ai fait du jonglage pendant quelques temps, vraiment sur une pratique amateur, et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je pense que j'aime vraiment le jonglage pour... Ça résonne avec ce que dit Guillaume, mais pour moi, c'est j'ai l'impression que le jonglage, c'est ranger des trucs. C'est qu'il y a des tâches qui se répètent, on lance des objets, ils atterrissent a priori toujours aux bons endroits quand c'est ce qu'on a choisi. Et du coup, je trouve qu'il y a un schéma qui est extrêmement clair dans le jonglage. Pour moi, regarder du jonglage, je peux le faire toute la journée. Ça me passionne. Je peux rester à regarder du jonglage et je trouve ça vraiment absolument magique. Donc, je pense que j'aime profondément la discipline. Moi, j'ai arrêté de la pratiquer parce que c'était pas tout à fait mon endroit. Mais je pense que c'est presque une pensée que je comprends vraiment à l'intérieur. Donc c'est un début de réponse à votre question. Et après, dans le rapport au toucher, moi, je suis beaucoup dans le visuel. Je pense que c'est ici que ma sensibilité, elle se situe. C'est vraiment dans le visuel, d'où le regarder du jonglage qui me passionne. Je pense que c'est plus ce rapport-là que le rapport au toucher. Pour moi, le rapport au toucher, il est beaucoup dans l'imaginaire. Comme je viens vraiment du milieu des arts plastiques, la matière, elle est extrêmement importante et c'est avec cette matière qu'on façonne une image. Et donc, je pense que pour moi, le toucher, il est vraiment lié à ce rapport au visuel. C'est-à-dire que c'est par le toucher qu'on crée une image. Le jonglage, c'est exactement ça. C'est par un toucher particulier qu'une image est créée, donc qu'un spectacle aussi peut être créé. Je pense que c'est là que ça se situe.
Ça me parle à fond ce que tu dis, ça me donne envie de réagir parce que c'est par le toucher qu'on construit l'image. Je trouve que c'est une nouvelle façon pour moi d'entendre. Et surtout, ça parle beaucoup de ce que moi j'ai vu Margot faire. Si je peux parler des fleurs intestinales. Mm-hmm. On a du travail d'artiste qui se ressemble beaucoup avec Margot. Mais on en a aussi qui se ressemblent pas du tout. Et qui sont des choses qui me font un effet un peu dégoûtant pour moi. Et c'est la façon dont Margot, elle travaille certains volumes qui créent des formes qui sont comme des formes d'organes ou des formes intérieures. Et moi, je sens le toucher de Margot dans l'objet. Et c'est pour ça que je trouve ça passionnant que tu dises que c'est le toucher qui crée l'image, parce qu'en fait, elle fait des pliures qui deviennent des volumes, mais qui sont quand même des choses très pliées, et on dirait une espèce de un tas de peau qui qui est une forme donc très composée, c'est quand même très graphique. C'est les choses qui m'avaient touché quand j'ai vu le travail d'artiste de Margot. Et je trouve que c'est très tangible ce que tu dis, que le toucher crée une image, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une pliure qui bouge ou que quelqu'un l'a pas rangée mais touchée et que en fait ça s'est arrêté dans le temps et que c'était au milieu d'être vivant. Quoi. Cette phrase est très bizarre, mais c'est comme ça que je le ressentais.
Et je pense que dans la compagnie, on a un rapport aussi au faire. Et donc, ce qu'on cite souvent, c'est à l'artisanat qui est très proche, que ce soit pour Guillaume, pour Pierre également ou pour moi. Ouais. On est vraiment très liés par faire des choses, donc les faire en réel, et l'attention qu'on porte à faire ces choses, c'est-à-dire la précision qu'on y met ou l'intention, l'intérêt qu'on y met, c'est-à-dire que ça peut être des choses qui sont très longues, qui prennent beaucoup de temps ou qui sont très précises. Je pense que ça, c'est ce qu'on partage artistiquement dans la compagnie aussi, de manière très très forte, dans trois pratiques qui peuvent être différentes, mais qui se rejoignent à cet endroit-là, c'est-à-dire la précision dans ce qu'on fait et
la répétition
et la durée également.
Et le plaisir de cette nouvelle collaboration, c'est d'amener Pierre et Margot à des endroits spontanés et donc très vivants dans l'instant. Et ça, c'est très agréable de voir qu'ils ont vraiment envie aussi de déplacer leur pratique dans des endroits qui sont du vivant. Donc ça, c'est vraiment à la fois le cœur de la collaboration, mais ce qui ouvre un futur assez rigolo de se dire comment on va faire de la photographie en vivant ou des arts plastiques en vivant, et ça va forcément déplacer tout le monde, y compris la compagnie.
Je vais parler un tout petit peu à la place de Pierre, je pense qu'il sera d'accord. Je pense que dans nos deux pratiques à nous, à Pierre et à moi, donc ils sont vraiment le visuel, lui par la photographie et moi par les arts plastiques, on a vraiment tous les deux travaillé toujours avec le vivant. Lui par le côté reporter, c'est-à-dire il travaille toujours avec des gens et de très très près. Et tout son travail photographique, il est vraiment porté sur les autres.
C'est vrai, il fait des reportages, que ce soit politique ou humain, et il fait beaucoup de documentaires, et on lui commande souvent ça. Et il a une sensibilité très très graphique, donc il arrive à quand même faire des choses abstraites par moment, même dans ce contexte-là.
Et moi, c'est vraiment la même chose. Je pense que tout mon travail plastique, il est porté sur le vivant, sur l'humain même. C'est vraiment là-dessus que je me situe. J'ai l'impression que c'est ce qui est... Enfin, c'est mon rapport au réel qui est le plus direct. Je travaille que à partir de ça et c'est en vrai tout ce qui m'intéresse. C'est aussi ce qu'on disait dans la pédagogie, mais c'est ce rapport à l'autre qui est très important.
Si ça n'a pas déjà été fait, est-ce qu'il y a l'idée, est-ce qu'il y a la volonté de joindre vos œuvres ou même du coup les photos de Pierre dans la scénographie d'une future performance? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé? Vous évoquiez les fleurs intestinales, donc je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais est-ce qu'il y a cette idée pour ces fleurs-là ou pour encore une fois d'autres œuvres de les intégrer à une performance?
Bah, je vais répondre. Aujourd'hui, le fait pour moi d'être invitée à réaliser la scénographie et du coup le visuel du nouveau spectacle, j'ai vraiment l'impression d'apporter ma créativité à cet endroit-là, même si elle est au service d'une œuvre que moi je ne crée pas entièrement, évidemment. J'ai l'impression que c'est quand même cette sensibilité-là qui passe par le visuel et qui peut faire écho et qui répond aussi précisément à l'œuvre de jonglage ou l'œuvre de spectacle vivant qui est en train d'être fabriqué. Et j'ai l'impression que l'objectif, c'est de pouvoir non pas allier nos créations, mais plutôt les faire ensemble.
Très juste.
Et je pense que pour Pierre, c'est vraiment la même chose. On a plusieurs, comme vous le disiez au début, on a plusieurs projets qui sont très étroitement liés, ou qu'on pourrait dire parallèles, mais très étroitement liés, des projets d'édition, donc qui, avec des images, éventuellement des dessins, du texte, des choses qui sont assez
spécifiques de chaque médium. C'est là où j'ai envie de rebondir sur ce que dit Margot. Je pense que moi, ma réponse à votre question, ce serait non. Parce qu'en réalité, ce qui nous plaît, c'est de travailler avec ce qui est particulier dans toucher les objets ou dans le jonglage, dans le spectacle vivant et comment communiquer avec ça. Et Pierre, il a une photographie que je trouve incroyable. C'est-à-dire que même à l'époque dans laquelle on est maintenant, avec autant d'images, ces images me touchent avec quelque chose de très particulier à la photo. Je suis très peu allé en musée, ou je suis très peu sensible aux arts contemporains, ou à beaucoup de choses de cet ordre, où c'est pas ma culture, disons. Et le travail de Margot m'a touché de lui-même. Alors j'avais vu que des photos dans un coin, et quand je les ai vues en vrai, j'ai vibré. Et c'est ça qui nous plaît à construire en tant qu'artiste, là pour le coup, c'est de construire l'émotion qui est spécifique des pratiques qu'on a. Donc l'idée, quand on s'associe, ça va être de construire à l'avenir des œuvres qui vont être spécifiques de ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est là où je répète ce que dit Margot, et c'est là où ça ouvre la compagnie nécessairement, parce que si on va travailler à partir du médium de Pierre, la photo, ben mes compétences, elles vont forcément décaler comment je vais imaginer mettre en scène, et là je mets des guillemets sur ce que je dis, parce qu'en fait, ce serait probablement une expo, mais vu que Pierre a aussi des idées très ouvertes, il n'est pas exclu qu'on invite des gens à être allongés par terre et que ce soit une projection de photos avec une musique, avec beaucoup d'enceintes qui permettent aux gens en fait de regarder les photos d'une manière spéciale et qu'en fait on imagine une expérience. Parce que non seulement Margot, elle adore la performance, mais qu'on pourrait vraiment décaler au fait que les gens y vivent quelque chose de très particulier avec les œuvres de Pierre. Et c'est ça qui est l'opportunité, je trouve, d'être ouvert à ne pas vouloir mélanger les arts, mais à vouloir faire des choses ensemble. Et c'est souvent ça qu'on dit de manière, pas revendicatrice, mais mélanger les arts, il y a une intention qui est assez simpliste, mais facile à dire, alors qu'en fait, créer quelque chose de particulier à ce que Pierre a envie de dire, ben c'est forcément à la fois profond, mais compliqué à expliquer. Et c'est ça qui nous plaît à amener aux gens, parce qu'en fait, nous, on veut créer un accès direct à toute cette profondeur ou cette complexité. Et je trouve que c'est ce que Pierre réussit dans ses photos, et c'est ce que j'ai vu Margot réussir dans Les Fleurs Intestinales, mais je l'ai vu aussi faire d'autres dessins, qui sont pour le coup beaucoup plus proches des dessins que je fais, où je me dis, ah, le pont, il est énorme, et comment est-ce qu'on pourrait faire vivre aux gens ce que moi j'ai ressenti en voyant certains dessins de Margot, ou ce que j'ai vu ma famille devant des dessins, ou que j'ai vu Margot recevoir de certains dessins que je faisais. Et je trouve qu'il est là le défi des œuvres qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut proposer, ou quand nous on se déplace, ou qu'on dépense des ressources dans ce monde pour pouvoir venir faire des spectacles, ou leur montrer des dessins, le défi se trouve ici. Comment leur faire accéder à quelque chose de particulier qu'on aura créé pour eux, ou qu'on aura créé ensemble. C'est pour ça que c'est presque obsolète de faire les anciennes œuvres. Ce serait surtout... quelle œuvre on ferait avec les anciennes œuvres? C'est pour ça que ce serait pas forcément de la scénographie, mais probablement des choses nouvelles. D'où l'ouverture à cette nouvelle direction artistique de la compagnie qui est et spectacle vivant, et des trucs. Moi, je sais pas encore ce qu'ils vont être, mais je suis assez excité à l'idée de dire qu'on les fera ensemble avec Margot et Pierre.
Oui, qui peuvent se rejoindre sous des installations, des performances. C'est comme ça qu'on les nommerait aujourd'hui, même si nous on trouve que c'est un peu réducteur.
Pourquoi réducteur?
Parce que j'ai l'impression que c'est des mots qui sont génériques, dans lequel, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer.
Puis c'est des choses qui sont socialement fixées, en fait. Performance, c'est pas plus ouvert que le spectacle, c'est juste...
un autre domaine.
C'est un autre domaine, comme un autre spectacle. C'est comme le graffiti et la peinture. Ça veut pas dire que c'est pas de l'art graphique, c'est juste deux domaines. Et j'ai l'impression que tu le sens beaucoup comme ça, Margot, quand elle parle...
C'est une catégorisation un peu institutionnelle, de dire installation, ou performance, ou spectacle. On s'y contraint volontiers. Mais c'est vrai que pour décrire... nos créations, j'ai l'impression qu'elles sont tellement plus larges et tellement intimes pour nous qu'on a envie de mettre les meilleurs mots dessus, et je ne suis pas sûre qu'ils existent pour l'instant.
Et j'ai l'impression aussi que ce que tu amènes aussi, Margot, ce que je trouve rigolo, c'est on va faire les œuvres, puis après on ira les mettre dans le milieu qui les accueillera. Ce qui fait qu'en gros, si on fait de la performance et qu'il y a des endroits qui veulent de la performance, alors que moi j'ai toujours fait du spectacle, on serait content de rencontrer les gens qui pourraient nous permettre de faire circuler ces œuvres, plutôt que de se contraindre, entre guillemets, au cirque. Parce que le cirque a été en fait très ouvert avec moi, parce que j'ai fait du jonglage très personnel, on va dire, ou très particulier, on l'a cherché depuis le début. Ce qui fait qu'on a toujours fait que du jonglage et que du jonglage abstrait qui a du coup fonctionné dans le cirque, alors qu'on faisait des fois des trucs pas forcément qui pouvaient être décrits autrement. Je trouve que ce que Margot apporte, qui est cool, c'est de se dire... et si on prenait le risque de s'institutionnaliser un peu plus avec la compagnie pour pouvoir dépenser des sous à faire des œuvres pour ce qu'elles sont, et après se battre pour qu'elles rencontrent un public. Et du coup, c'est là où, en fait, que les gens les appellent performance ou graffiti jonglé. Enfin, en fait, ça nous touche moins que de pouvoir rencontrer les gens pour exprimer ce qu'on a à dire.
Trouver de nouvelles formes et trouver de nouveaux mots qui peuvent s'appliquer à ces formes, ça tombe bien parce que là, je vais beaucoup parler, j'aurai besoin de vos mots après pour m'aider à répondre à une question. Je vais partager avec vous ce que j'ai vu du coup il y a deux jours dans le parc du centre-ville de Riga.
Ah, oui.
Quand j'ai vu Croûte, mais du coup je ne sais si je dois appeler Croûte un spectacle, une performance, en tout cas une très belle expérience. Donc, Croûte était une expérience intrigante et captivante. La liberté absolue, si complexe à définir et à appréhender, y était représentée de manière unique par un jongleur, vous, qui semblait se fondre avec ses balles, évoluant avec autant de fluidité qu'elle. On en venait presque à oublier l'art de la jonglerie. Vêtu d'un costume immaculé, vous portiez une chemise blanche d'une élégance raffinée, un simple slip et des moon boots, mélangeant les styles avec une audace qui confère à votre personnage une dimension à la fois clownesque, grotesque et absurde. Ce personnage singulier, qui ne s'exprimait pas par des mots mais par des cris et des sons, évoquant tantôt un volatile, tantôt un dinosaure, interagissait avec le public de manière à la fois taquine, amusante et parfois dérangeante. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit en observant votre performance, votre spectacle, est fluidiforme. Il y avait un juste équilibre entre la rigueur du travail et l'improvisation spatiale, une agilité extraordinaire dans les mouvements du corps, capable de se déployer dans toutes les directions, et des variations subtiles entre des tours apparemment simples, comme disposer les balles le long d'un parapet, et des prouesses beaucoup plus complexes, telles que jongler en grand écart à 50 cm du sol. En définitive, j'ai eu le sentiment d'avoir été témoin d'une multitude de formes au service d'un langage inédit, cherchant à exprimer, sinon la liberté en elle-même, concept éminemment complexe, du moins des libertés multiples, insaisissables mais d'une beauté éclatante. J'ai quitté le parc en me posant la question suivante, qu'est-ce qu'être libre ? Alors, en jonglant, non pas avec des balles, mais avec des mots, pouvez-vous m'aider à répondre à la question ?
Merci déjà d'être venu au spectacle, et puis merci pour ce retour au texte. Ouais, je suis quand même ému de recevoir ce que vous m'envoyez.
Avec plaisir.
Moi, pour répondre à cette question, c'est comme si j'avais accepté que je ne l'étais pas. Du coup, dans tous les cas, je vais être contraint. Et dans tous les cas, je ne ferai pas tous les choix. Donc la seule chose, c'est d'accepter et de faire avec ce que je peux choisir, moi, personnellement. Donc j'ai l'impression que tout l'enjeu, ça a été d'être capable à la fois d'accepter et de construire ce qui me permettrait de faire tous les choix possibles. Donc typiquement le jonglage, qui est une mine de contraintes, vraiment c'est quelque chose que je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un qui veut faire de l'art, tellement c'est contraignant, tellement c'est aride, tellement faut répéter, tellement ça rate facilement, tellement c'est long avant de pouvoir se sentir spontané. Moi ça m'a pris vraiment longtemps. Et en même temps, quand je vous entends me dire que vous me sentez libre, c'est quand même très touchant. Donc, j'ai l'impression que ma réponse, ce serait construire des outils qui te permettent de choisir. J'ai l'impression que pour moi, la liberté, c'est choisir. Donc, je comprends bien que je choisis très peu, au final. Mais du coup, dans ce très peu, c'est là où j'ai envie d'être très compétent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de m'entraîner beaucoup, beaucoup. Parce que le plaisir dans ce spectacle, c'est qu'on a passé 5 ans à créer un processus de création avec Dina Roberts et Mathilde Droit. Elles ont une importance énorme dans comment on a pu justement se déplacer pour imaginer créer quelque chose de spontané. Et c'était vraiment ce qui me touchait, c'était j'avais beaucoup écrit du jonglage jusque-là. Et l'idée, c'était de créer quelque chose de spontané. Et la réalité de ce spectacle, c'est vrai que j'ai l'impression que la liberté pour moi, c'est d'avoir la maîtrise d'un langage. D'avoir la maîtrise d'un langage, la liberté. Et ce qui était passionnant dans ce spectacle, ça a été créer le langage d'une manière très pragmatique et concrète. Avant, c'était un terme d'artiste. On veut créer un langage corporel et jongler, puis on fait un spectacle et les gens arrivent à voir des choses. Du coup, on communique. Et ça reste abstrait. Et j'irais même jusqu'à dire, moi, je ne savais pas ce que nous communiquions. C'est les gens qui le recevaient qui pouvaient nous le dire. Donc, au fur et à mesure du spectacle, on comprenait de mieux en mieux. Alors que là, dans Croûte, on a vraiment créé ça comme du vocabulaire. C'est-à-dire que chaque routine, on les a écrites et fixée, et même si on ne savait pas ce qu'elle voulait dire concrètement, on savait ce qu'elle était et on savait ce qu'elle envoyait. Du coup, on a une quinzaine de routines, une dizaine de personnages, plus d'une dizaine de danses aussi, et du coup, on a ces 3 éléments qui constituent tout un vocabulaire qui a une grande complexité et profondeur, mais nous, on n'a pas besoin de la comprendre, on a besoin de la maîtriser. Et après, on s'est entraîné à écrire des pièces qui nous a permis de comprendre une syntaxe. Et je trouve que la liberté, elle vient de là, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas décider de la culture des gens. On peut pas savoir si, en fait, ils se sont embrouillés avec la babysitter pour faire garder les mômes avant, ou en fait, c'était compliqué le travail, ou ils sont arrivés en retard, ou ils sont justes, ou en fait, il y a plein de choses qu'on décide pas du tout. Ni même le contexte du festival, ou il y a tellement de choses qu'on comprend pas. La seule chose qu'on sait, c'est le langage qu'on a, la syntaxe qu'on aura composée avec Margot ou avec l'autre regard extérieur, parce qu'il y a Pierre aussi qui fait du regard extérieur, ou Mathilde ou Dina. Et après, c'est de vivre le moment avec eux. J'ai la possibilité d'être spontané, parce qu'en fait, j'ai pas l'inquiétude de quel jonglage j'ai écrit. C'est qu'en fait, ce qu'on a choisi de faire avant, je peux le recomposer sur le moment, parce que j'ai la maîtrise du jonglage. Et quand tu parlais du parapet ou du jonglage en grand écart, le jonglage en grand écart, on l'a trouvé sur le lieu, du coup, on l'a écrit sur le lieu. Et c'est une blague, en fait. J'ai essayé un truc, et c'est de cette blague, on a eu la possibilité, avec tous les outils qu'on avait avant, et cette maîtrise de faire quelque chose qui était du jonglage qui me touchait. C'était d'ailleurs le jonglage que j'ai préféré faire sur cette session. Est-ce que ça répondrait à cette idée de la liberté, la maîtrise d'un langage qui permettrait de traduire ta sensibilité au moment où tu la vis?
Je prends la réponse, me paraît très authentique. Ce que je trouve très complexe, mais ce qui est beau dans ta réponse, c'est que c'est la maîtrise du langage, mais tu as aussi dit, c'est maîtriser sans comprendre.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est une déconstruction qui n'est pas simple à faire, du moins dans mon esprit, dans la pratique, je ne sais pas. Parce que il me paraît très complexe de maîtriser quelque chose sans la comprendre. Mais c'est là qu'il y a une magie dans la performance, dans le spectacle, dans la prouesse, parce que ça se transmet quand même. Parce qu'effectivement, je ne peux pas parler à votre place, mais il y a quelque chose qui émane, une liberté qui émane, et effectivement, si elle est très difficile à appréhender, à comprendre, on voit quand même la maîtrise qu'il y a. Et c'est assez troublant, mais de manière très belle.
C'est rigolo parce que ça revient aussi à la pédagogie. Je trouve que j'utilise souvent le terme du bébé, ou de certains animaux, où en fait, il y a des moments où tu vois les animaux vivre, tu comprends pas ce qu'ils font, mais tu comprends que ça a une signification, que c'est important. Et cet endroit-là, je le trouve très touchant. Et dans la pédagogie, j'ai une méthode que j'appelle la méthode du bébé, qui est aussi, tu t'entraînes, en fait, tu fais, tu répètes, tu observes, tu recommences. Et en fait, en faisant ça, tu acquiers une sensibilité et une compétence, et pas forcément une compréhension. Et la compréhension, elle, des fois, elle se construit avec, et des fois, elle se construit plus tard. Et c'est quelque chose que je trouve de très important dans le processus d'apprentissage des êtres humains. Et moi, j'ai vu ça en observant des bébés qui apprenaient à marcher, mais qui ne comprenaient pas le concept d'équilibre. C'est hyper compliqué. C'est les scientifiques, quand ils décrivent l'équilibre de manière juste, il faut avoir des diplômes pour comprendre ce qu'ils disent. Alors qu'en fait, les enfants le font très bien. Et je trouve que cet endroit me touche particulièrement, parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas du tout, même dans les rapports sociaux, que c'est hyper rigolo pour moi de me retrouver face aux gens en ne comprenant pas du tout la culture que j'ai en face de moi, et en même temps, en tentant de créer un lien. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à l'expression de la compagnie aussi.
La pédagogie, c'est la répétition, c'est la pédagogie. J'ai déjà entendu ça par certains professeurs. Margot, du coup, sur qu'est-ce qu'être libre, ou alors sur la réponse que vient d'apporter Guillaume?
Moi, je pense que je suis à un endroit qui est différent. Mais l'exemple du spectacle croûte l'illustre très bien. J'ai l'impression que c'est la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut. Et déjà, c'est énorme. Et c'est ce que nous offre vraiment ce spectacle, c'est-à-dire tout le processus ou tout le concept, c'est de venir dans un endroit qu'on a plus ou moins choisi avec les organisateurs, enfin en tout cas qu'on décide d'investir, de pouvoir choisir où est-ce que le public va se placer, donc ce qu'il va voir, et de pouvoir faire à l'intérieur de cet endroit absolument ce que nous on a décidé. Donc ça peut être des blagues, ça peut être, comme vous le disiez, du jonglage extrêmement pointu et complexe, ça peut être avoir des postures qui soient différentes. Et j'ai l'impression que ce panel de choses-là, toute cette possibilité-là, elle est très très proche de la liberté. Avoir l'occasion de pouvoir jouer devant un public, je trouve que c'est un espace de liberté énorme qu'on nous offre. J'ai l'impression que c'est une place à la fois très privilégiée et qui a une valeur très très forte, c'est-à-dire celle d'avoir du temps et de l'espace devant des gens pour pouvoir exprimer et leur apporter absolument ce qu'on veut. J'ai l'impression que c'est un espace de liberté que peu de gens ont et qui est absolument incroyable. À part voilà, des artistes ou certains milieux, cet espace de parole et cet espace pour pouvoir montrer quelque chose. Et nous, en plus, pour pouvoir montrer ce qu'on crée, donc ce qu'on fabrique dans nos têtes avec toute notre sensibilité, j'ai l'impression que cet espace-là, moi je le dirais comme ça, c'est cet espace qui nous est offert de montrer quelque chose qui est un espace de liberté énorme.
En parlant de l'espace, j'évoquais que moi j'ai vu Croûte dans un parc. Ouais. Deux jours auparavant, Croûte s'est réalisée dans la cour intérieure du cirque de Riga. Quelle anticipation il y a avant chaque représentation? Parce que j'imagine que vous avez joué Croûte dans divers endroits, vraiment. Combien de temps à l'avance vous rendez-vous à l'endroit avant la performance? Un jour, quelques heures, deux jours, une semaine?
On a un travail en amont avec les organisateurs, comme disait Margot, c'est-à-dire qu'on laisse l'organisateur nous proposer des lieux, sachant qu'ils connaissent le projet. Dans ces lieux, nous, on fait une sélection. Et une fois qu'on a cette sélection, nous, on arrive 24 heures avant, dans le protocole, avant le spectacle. Donc souvent, c'est J-2, parce que c'est quand même le plus pratique. Et après, on a tout un protocole de création qui se fait en 24 heures. Et on fait la création du spectacle en 24 heures. Donc on fait le choix du dispositif. Après, il y a le choix de tous les espaces dans lesquels on peut jongler. Et dans ça, il y a évidemment toute la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu pointues, dangereuses, qu'il y a du verre, des crottes de chien, enfin des trucs comme ça, pour pouvoir prendre soin quand même du corps de l'interprète. Il y a le dispositif, le choix d'in situ, le jonglage et après la composition. Et la composition, c'est là où on se met au carnet, on écrit et on décide qu'est-ce qu'on fait avant. L'idée, c'est de construire un début et une fin. Et si les gens comprennent qu'il y a une fin et qu'ils l'ont compris sans qu'on dise rien, c'est qu'on a réussi à communiquer quelque chose de l'ordre d'une narration abstraite comme de la musique. Du coup, ça veut dire qu'on a gagné, parce qu'on a réussi à construire un langage corporel et jongler. Et c'est ça qu'on fait. Donc ces quatre sessions-là, et on fait une répétition aussi. Pas forcément exactement comme le spectacle, mais en fait, je mets les pieds dedans, je fais les enchaînements, et souvent, c'est là où Margot, elle fait « Ah, ça marche pas. » On recommence, ça, c'est... On a déjà une intuition. Et puis après, on fait à chaque fois des premières, donc on sait pas trop dans quoi on met les pieds quand même.
La répétition pour la représentation que j'ai vue il y a deux jours, elle se fait quand? Elle se fait en journée, sachant qu'il peut y avoir du public, ou alors vous essayez de répéter la nuit pour qu'il y ait le moins de gens possible?
Non, je fais en journée, un peu n'importe quand, parce que en fait, pour que le spectacle existe, il faut qu'on ait l'attention des gens au début. C'est pas un spectacle de rue au sens, je vais dire, intègre dans ma tête. Comme, j'ai une vision du spectacle de rue comme une vision du graffiti. Quand tu fais du tag, c'est quelque chose que tu choisis toi-même, donc c'est illégal, tu vas faire ton truc, tu demandes d'autorisation à personne. Pour moi, le spectacle de rue, c'est comme ça. Nous, on est plus institutionnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont présents et ils savent qu'il va y avoir un spectacle. Donc ça nous permet à nous d'écrire des choses vraiment très différentes, où on peut pousser des endroits d'expression qui sont riches et très importants pour nous. Donc en fait, quand on commence et qu'il n'y a pas les gens, des fois il y a des gens qui s'arrêtent, mais c'est très peu de gens au final, parce que le contexte n'existe pas encore. Le gros du travail de création, c'est créer le contexte, comment on dispose les gens, à quel moment, ce qui fait qu'en fait, s'ils ne sont pas là, on peut faire ça et on est tranquille. Il y a des gens qui restent, mais ça ne gêne pas du tout la répétition et je suis pas non plus à full, vu qu'il n'y a pas les gens en plus. Je fais vraiment le jonglage, je fais beaucoup le corps et l'espace pour qu'on puisse voir le cœur de ce qu'on a écrit. Et après, on se prépare pour pouvoir que je puisse être très ouvert à ce que vivent les gens quand je fais ça. Et c'est pour ça que le spectacle, il bouge beaucoup de ce qu'on a prémédité et de ce qui se passe au final. Parce que il peut y avoir des enfants qui rentrent sur scène, un pigeon qui passe ou un gros bruit où en fait les gens rigolent beaucoup. Du coup, en fait, je suis obligé de m'arrêter pour garder leur attention. Enfin,
on ne fait pas vraiment de répétition dans le lieu, on fait vraiment la création du spectacle dans le lieu. Mais il y a très rarement des répétitions propres de ce qui va se passer au plateau en amont. C'est plutôt ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire aller dans les lieux et tester des petites choses, mais jamais le spectacle en entier.
C'est rigolo, c'est très juste. Et moi, j'appelle ça répétition parce que, pour partager un secret du spectacle, moi, je le répète beaucoup dans ma tête, le spectacle, pour avoir l'impression de l'avoir déjà fait. Mais en fait, du coup, on parle de choses qui n'ont pas encore existé avec Margot. Donc c'est là où ça devient très conceptuel. Ce qui fait que moi, quand je fais, par exemple, quand je passe d'un espace à l'autre en marchant et en jetant deux balles, et puis en rejetant deux balles dans le corps que je devrais avoir, on a une intuition et on peut projeter de très loin. Mais c'est vrai que, pragmatiquement, j'ai pas du tout fait ce que je ferais. Mais vu que Margot, elle connaît aussi, elle a la maîtrise du langage, elle peut projeter concrètement ce que ça serait. Ce qui fait que nous, quand on appelle répétition, c'est vrai que c'est plutôt un filage qui, dans le... Je crois que les gens ne peuvent pas reconnaître de la répétition que moi j'appelle répétition au spectacle.
J'ai plusieurs interrogations, mais j'en ai une que je vais vous introduire maintenant. Du coup, je disais en voyant Croûte, j'ai vu différentes formes. À un moment dans votre réponse, Guillaume, vous avez utilisé le mot vocabulaire. J'ai aussi, depuis que j'ai vu le spectacle, j'ai cherché à interpréter, mais peut-être un peu trop, le titre. Croûte. Croûte. Et je me suis dit, alors j'ai fait plus différentes interprétations, vous êtes vêtu du coup tout en blanc, du coup comme un tableau vierge. Je me suis dit, croûte, c'est un mot très péjoratif pour décrire un tableau. Je me suis dit, ça pourrait très bien être associé à votre corps, parce que vous vous jetez par terre, vous roulez, vous descendez les escaliers, donc les croûtes sur votre corps. Qu'est-ce qui se cache, si vous souhaitez bien divulguer un peu, ou alors si vous souhaitez que ça reste un mystère, qu'est-ce qui se cache derrière le titre?
Eh bien, je pense que tu as vraiment saisi le titre. Hein. Il y a trois choses. Il y a effectivement croûte en peinture, qui est, moi j'appelle ça un raté, donc c'est à la fois péjoratif, mais le raté, pour moi, une des définitions absolues du jonglage, c'est que tout peut foirer. Et du coup, appeler un spectacle comme ça, je trouve ça très pertinent. Il y a effectivement le rapport au corps qui est très très engagé, et du coup, pour pouvoir amener de l'absurde et du sensible, le fait de se jeter par terre en permanence et d'avoir beaucoup de peau, et notamment aux jambes, ça crée, comment dire, une réalité ou un danger. Et le fait de garder le corps immaculé à la fin, ça rend un absurde qui est un peu cartoonesque. Ça me parle beaucoup. Donc c'est pour ça aussi croûte. Et croûte, c'est quand même un terme, pour moi, qui est lié à l'enfance. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on connaît tous et qu'on a beaucoup utilisé. Mais quand j'étais petit, c'est-à-dire, tu t'es encore fait une croûte, ou touche pas ta croûte, ou gratte pas ta croûte, ou voilà, j'ai des croûtes. Enfin, pour moi, c'est l'enfance. Et c'est un état d'esprit, du coup. Quand tu te fais des croûtes, c'est que tu t'es raté, que tu t'es engagé, donc tu jouais, t'as dépassé certaines limites, donc ça évoque beaucoup ça. Et il y en a un autre qui est quand même très important du terme croûte, c'est qu'on est quand même une compagnie professionnelle et maintenant reconnue, du coup on est international, et quand on parle aux gens qu'on a un projet et que le titre c'est croûte, et qu'on les regarde de manière très sérieuse et qu'on les voit un petit peu hésiter en disant pardon ? Oui, c'est croûte, c'est le titre du spectacle. Moi ça me fait mourir de rire, c'est comme une blague de fête. Et que nous, on vit à chaque fois, et je vois même Margot, quand elle dit croûte, elle a souvent le sourire. Et ça, c'est un truc assez précieux que je trouve qui est le spectacle aussi. Quand on nous parachute dans un parc avec les moon boots, ou devant un canal, ou à l'envers dans une salle de théâtre, ou dans une cave, c'est absurde, en réalité, ce qu'on propose. Et je trouve que ce titre-là, en termes professionnels et en termes institutionnels, il est absurde.
Et puis, j'ai l'impression que ça fait aussi suite à... que ça résonne avec d'autres titres des spectacles de la compagnie qui ont un impact très fort, c'est-à-dire le mot, il est choisi. Il ne donne pas forcément une image extrêmement précise, mais tout comme disait Guillaume, une espèce de contexte. Et il y a eu Flac, le spectacle Flac, avant, qui, je trouve, avait un titre qui résonnait extrêmement bien aussi et qui projetait tout un univers autour de ce mot. Et j'ai l'impression qu'entre Flac et Croûte, il y a un choix du mot qui est extrêmement précis pour... définir à la fois ce côté absurde, ce côté jeu aussi. Ouais, je trouve que c'est un choix de vocabulaire qui est à la fois simple et extrêmement précis.
Pour conclure cet entretien, je voudrais qu'on ait une conversation un peu plus large sur le jonglage ou la jonglerie. C'est une autre question que j'ai sur le vocabulaire, parce que je lis les deux, jonglerie, ouais. Jonglage. Lequel vous utilisez ?
Moi, en ce moment, j'utilise jonglage.
Jonglage.
Mais on peut utiliser jonglerie. Moi, ce qui me plaît dans le jonglage, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps, mais c'est que c'est pas une institution. Du coup, on utilise le terme qu'on a envie. C'est ce qui me parle et c'est ce qui m'a fait, moi, du bien en jonglant.
D'accord.
C'est plus une pratique que c'est différent du ce qu'on appelle aujourd'hui le cirque ou la danse ou le théâtre, qui sont presque des institutions aujourd'hui.
Qui sont complètement des institutions.
Ouais, qui du coup parlent de ce qui se passe ou de ce qu'on fait, mais qui sont quand même des mondes à part entière, alors que j'ai l'impression que dans le jonglage, il n'y a vraiment que la pratique. Ce qu'on imagine, c'est juste des objets en l'air, et il n'y a pas encore de monde.
Je trouve qu'en fait, le terme monde, c'est plus institution réglée, normée. Je trouve que c'est vraiment un monde, le jonglage, en fait. C'est ça que...
Comme le dessin, par exemple, qui est différent pour moi des arts plastiques, c'est quand on parle du dessin, on parle d'une pratique. Ou quand on parle de la peinture, on parle d'une pratique. J'ai l'impression que le jonglage, c'est une autre pratique.
Moi, ce que je trouve touchant, c'est que le jonglage, c'est un ensemble de pratiques qui est à la fois millénaire, mais qui est lié aux êtres humains et qui n'est pas lié justement à des objets en l'air. C'est vraiment des manipulations d'objets, en vraiment toujours. Il y en a qui les isolent, il y en a qui les gardent le hula hoop, ils ne les jettent pas forcément. Il y en a qui les gardent dans une ficelle, il y en a qui les maintiennent en équilibre sur la bouche, sur la tête. Tout ça, c'est du jonglage. Pour moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'était tellement ouvert que la seule manière qu'on a de nous d'en parler avec Margot, c'est une pratique ou c'est des pratiques. Et on retrouve des sensibilités communes aux gens qui pratiquent ça. Et on trouve aussi des significations communes. Si on regarde dans certains historiens du jonglage, il y a beaucoup de gens qui faisaient du jonglage pour se lier aux dieux ou pour se lier à la fertilité, parce que en répétant avec certains nombres d'objets, une figure, ben en fait, c'était un événement particulier. Et vu qu'il fallait investir beaucoup de sa personne et de sa sensibilité, ben en gros, ça te mettait un endroit particulier de l'espace et du temps, enfin, des choses spirituelles. Et je trouve que le jonglage, c'est ça, et que c'est, pour moi, c'est plus grand qu'une institution, mais je n'ai pas non plus rencontré de gens qui pouvaient régler le jonglage en disant « cette figure, elle s'appelle que comme ça », ou « ça, ça vaut tant de points si on fait une compétition ». Et c'est ce qui, moi, m'a fait du bien dans faire du jonglage. Et c'est pour ça que le cirque, je le différencie du jonglage, parce que tu peux faire du jonglage en ayant, bah c'est mon cas, en n'ayant jamais mis les pieds dans un cirque. Donc moi, quand j'ai commencé le jonglage, j'avais jamais vu de cirque. Et c'est un truc qui est quand même particulier. Tu peux rencontrer des jongleurs qui font pas du cirque. Et il y a beaucoup de jongleurs professionnels qui ont jamais fait d'école de cirque. C'est assez particulier au jonglage, je trouve.
Et pour les petites anecdotes liées au jonglage, c'est que Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, tu fais tomber quelque chose et puis t'arrives à le rattraper malgré toi. Et puis, en fait, pour nous, c'est du jonglage. C'est du pur jonglage. Ou, on voit ça aussi beaucoup dans les dessins animés. En fait, dans plein de dessins animés, il y a des moments de jonglage. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut se retrouver un peu partout, que tout le monde peut un peu pratiquer, même sans se dire « je sais faire une cascade à 3 balles ». Mais juste parce que, en fait, c'est réussir à réceptionner des objets malgré toi ou avec une extrême volonté, mais j'ai l'impression que c'est dans beaucoup d'endroits différents.
Ça, c'est notre endroit. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, quand il se passe ça, on dit « très beau jonglage
». On a plein de copains qui font ça sans faire du tout ces pratiques-là, mais qui adorent jeter des trucs. Enfin, d'ailleurs, nous aussi, qui adorent jeter des trucs et le faire tomber dans la poubelle qui est à 5 mètres. J'ai l'impression que c'est des jeux même d'enfants qui... Oui, qui sont vraiment dans la vie quotidienne, quoi.
Et ça, j'ai l'impression que... Là, on parle des jongleurs. C'est-à-dire que ça, c'est de l'amour. Je me reconnais tout à fait dans ce que dit Margot. Et pour le transmettre aux gens du quotidien en disant, en fait, on est tous jongleurs, c'est manipuler une fourchette. C'est hyper dur. Et on voit, les bébés, ils mettent un temps d'apprentissage. Et c'est très subtil et c'est très fin comment on manipule une fourchette. Et ça, c'est un rapport au jonglage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux objets. Il y a l'outil fourchette, et puis ce qu'on met dedans, puis comment on le met, puis jusqu'où on l'amène, et on se cogne pas les dents, et on le met, et on se plique pas. Ça aussi, pour moi, c'est du jonglage. Même si on l'appelle pas forcément comme ça.
Donc l'apprentissage de la manipulation de l'objet, c'est du jonglage.
Ah, la manipulation de l'objet, est-ce que j'aurais un autre exemple?
Un stylo.
Un stylo, c'est très dur à manipuler et c'est pour produire quelque chose qui est très pragmatique. La forme des lettres, c'est en réalité hyper dur. Et on voit ça si on doit apprendre à la main gauche. Et c'est très performatif, c'est-à-dire que si t'écris mal la lettre, les gens ils la reconnaissent pas. Mais c'est pas pour faire un spectacle. Manger, c'est vraiment pour des nécessités très très pragmatiques. C'est beaucoup plus pratique de manipuler une soupe avec une cuillère pour plein de choses, ou quand on est cuisinier, pour pouvoir verser. Et ça, c'est vraiment des pratiques qui sont exactement identiques à ce à quoi je m'entraîne. Même si mon pragmatisme à moi, c'est que c'est ma vie maintenant de ça, être capable de jeter des objets pour pouvoir facturer les gens qui nous demandent un spectacle. Mais au final, moi, c'est surtout le plaisir que j'ai, que décrivait Margot, le plaisir des jongleurs où, en fait, on jette dans la poubelle qui est à 5 mètres du premier coup, et là, tous les deux, on fait « ouh !» et on a une émotion qu'on a envie de partager aux gens. Mais c'est vrai que quand c'était hier Margot qui nous a fait le plaisir de... On était dans un café pour fêter la fin de la tournée avec Clément, notre administrateur. Margot, elle parlait avec ses mains, elle a tapé sa bouteille, qui a tapé ma bouteille, et en fait, elle a rattrapé sa bouteille et elle a bougé la table. Du coup, j'ai rattrapé ma bouteille, et en rattrapant ma bouteille, c'est le pint de bière de Clément qui est tombé, et il a rattrapé sa bouteille. C'était l'euphorie, le moment de la soirée. Moi, j'ai kiffé grave.
C'est le plaisir, oui, c'est ce plaisir-là de réussir à tout rattraper, que rien ne tombe alors qu'il y a quelque chose qui a été dérangé dans l'ordre établi, quoi. C'est aussi ça qu'on essaye de retrouver dans le spectacle Croûte, ouais, par exemple, ouais. C'est de réussir à garder en fait cette spontanéité et cet amusement. C'est vraiment, je pense, ça,
c'est très juste.
Le principal de ce spectacle, ouais, au final.
Alors, c'est intéressant que vous évoquiez la quotidianité du jonglage, de cette pratique et de la manipulation d'objets, parce que je voudrais vous interroger sur ce que j'ai lu de Marie-Carmen Garcia dans un ouvrage qui s'appelle « Artistes de cirque contemporain ». Et elle écrit ceci. « Les jongleurs se perçoivent comme détenteurs de dons que la pratique intense, autodidacte, permet de développer. Notamment, le passage de la manipulation de 2 objets à 3 symbolise l'entrée dans la virtuosité. Or, formateurs et artistes pensent que certaines personnes ne sont pas en mesure de passer ce cap des 3 balles, ce qui signifie que le jonglage ne serait pas une activité accessible à tous, qu'il faudrait avoir des capacités, des compétences, des dons particuliers qu'une pratique intense et régulière permettrait de développer. Bien que les jongleurs soient convaincus qu'il est impossible d'apprendre à jongler sans un entraînement quotidien de plusieurs heures, la conception du jonglage comme pratique fondée sur des dons pour l'adresse et de grandes qualités de concentration est omniprésente dans les discours des artistes. Pensez-vous qu'il faille un don, bien qu'accompagné de beaucoup d'heures de travail, et que certaines personnes ne peuvent pas apprendre à jongler? De ce que vous venez de me dire auparavant, j'irais...
Ah non, ça je... si je peux le dire avec un peu de mesure, je déteste absolument ce que vient de dire cette personne. Il n'y a aucun doute... Tu peux me citer, pour moi, c'est la blessure absolue. C'est vraiment faire la différence entre des gens. Il y a des supérieurs, des inférieurs. Il y a Dieu qui t'a donné ou c'est dans ta génétique. La virtuosité, c'est de l'entraînement. C'est tout. Et en fait, c'est ce que des gens font que d'autres ne font pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont différents. Du coup, c'est un non catégorique absolu à ce que je viens d'entendre. C'est tout le monde peut faire du jonglage. Et
la pédagogie, du coup, dont on parlait tout à l'heure, elle est dans la compagnie, elle est exactement développée à l'inverse de ce texte-là. C'est-à-dire, pour le workshop que Guillaume a donné mercredi dernier, tous les participants, et durant les 4 heures de workshop, ils ont une balle en leur possession. On a tous une balle et on arrive tous à jongler à un très haut niveau avec une balle en 4 heures. Qu'on en ait fait pendant des années ou pas, on arrive à des résultats qui sont très très proches les uns des autres. Et c'est bien une preuve que, en fait, c'est l'expérience qui compte. Donc c'est ce que Guillaume a appelé le travail. En fait, c'est juste le fait de le faire qui nous permet d'arriver à un résultat. C'est en rien pour nous un don quelconque ou une adresse très particulière qui sera propre à certains individus. J'ai l'impression que ce qu'on dit aussi beaucoup du jonglage, c'est que ça peut être évidemment un canaliseur, enfin quelque chose qui permet effectivement de canaliser une concentration, même une énergie, puisque les lignes de concentration, elles sont à un tel niveau que quand tu lances plusieurs objets, tu dois avoir en tête la notion d'espace, la notion d'objet, la notion de ton corps. Ça, c'est évidemment, on peut dire, bah oui, en fait, il y a besoin d'une concentration particulière, mais cette concentration-là, elle peut vraiment être trouvée chez n'importe qui. Et c'est ça que je trouve qui est absolument fascinant dans le jonglage. C'est que tu sois quelqu'un qui soit plutôt lent ou qui aime bien les choses en douceur, bah en fait, tu peux le faire dans le jonglage. Ou que tu sois quelqu'un d'extrêmement speed et qui a besoin d'avoir beaucoup de choses autour de toi, en fait, c'est aussi tout à fait capable dans le jonglage. Ouais, comme tu le disais, il y a des pratiques qui sont un tout petit peu différentes dans la manipulation d'objets, c'est-à-dire tu peux poser des objets sur toi, tu peux les lancer en l'air, tu peux en avoir un certain nombre.
Très varié, mais c'est un tout petit peu différent, ça peut être très très varié.
Bien sûr, des objets qui soient très petits, qui soient très gros, qui ont des formes différentes, en fait j'ai l'impression que c'est ça que nous on expérimente tous les jours et qu'on trouve aussi dans la transmission avec d'autres gens, c'est que en fait ça peut convenir absolument à n'importe qui à partir du moment où il a envie d'essayer.
Et je trouve que c'est ce qui est touchant à faire dans le spectacle. J'ai l'impression que quand je jongle, les gens ils voient qu'ils peuvent faire pareil parce qu'il y a des choses qu'ils comprennent et qu'en fait la virtuosité ça le rend absurde. Et moi c'est ce qui me plaît des fois de faire des trucs tellement bien qu'on te dit mais t'as pas passé des heures à faire ce truc-là, c'est tellement débile. Et en même temps c'est tellement vrai que je trouve que ça place la virtuosité à un endroit que je trouve plutôt rigolo ou touchant à un autre endroit que de dire je suis différent de vous. Et c'est ça que je trouve déroutant dans le texte et que nous on cherche absolument à éviter de dire on est différent, c'est le contraire. C'est
ce qu'on vous disait avec les objets du quotidien, c'est que pour nous le jonglage il est partout. Ouais. C'est que tu fais tomber tes clés et t'arrives à les rattraper au dernier moment, c'est du pur jonglage et ça tout un chacun peut le faire.
Et je vous garantis que si tu arrives avec ta tongue assis, tu la jettes, tu la fais un tour et tu la rattrapes entre tes orteils, je vous promets que les jongleurs vont faire
Dernière question. Ouais. Que je pose à tous les invités. J'ai bien entendu que le jonglage n'était pas institutionnalisé et que tous les jongleurs ne sont pas passés par le cirque. Pour autant, vous évoquiez l'influence du théâtre et de la danse. C'est une discussion que j'ai eue avec la bande à Sirec, c'est une discussion que j'ai eue avec Mara. Ma question est la suivante. Comment vous définiriez le cirque contemporain ?
Alors, je ne vais pas dire que la danse et le théâtre ont eu des influences sur le travail, c'est plus des outils d'artisans qu'on a utilisés. Parce que dans la vision que j'ai, il y a des pratiques spécialisées. La danse est spécialisée sur le corps et le théâtre sur les rapports sociaux. Et du coup, le jonglage sur les rapports avec l'objet. La définition du cirque contemporain.
Votre définition personnelle, si vous en avez une.
Je vais être sincère, moi j'en ai pas. Parce que pour moi, c'est une institution. Donc là, pour le coup, le cirque contemporain, pour moi, c'est un ensemble d'institutions françaises et européennes qui se sont organisées pour pouvoir soutenir des artistes qui, eux, ont reconnu dans le cirque. Donc, c'est là où je suis très content qu'ils nous appellent le cirque, parce qu'ils nous donnent aussi des financements pour faire des spectacles. Donc, l'idée d'appeler le jonglage du jonglage, c'est pas pour dire qu'on est meilleur que le cirque, c'est vraiment pour dire c'est aussi un monde à part entière. Et que je trouve que le fait que l'institution circassienne nous reconnaisse dedans, c'est un privilège et une super opportunité. Donc, moi, je mettrais le cirque contemporain comme une institution de gens qui veulent reconnaître des artistes qui ont envie de dire des trucs avec des pratiques qui sont, du coup, réunies de manière... pour moi, complètement arbitraire. Et qu'il y ait de l'acrobatie au sol et pas le trampoline. Mais maintenant, il y a du trampoline, qu'il y ait des gens avec du vélo à pignon fixe et d'autres qui font des équilibres sur la main. Moi, je vois vraiment très peu de liens entre ces pratiques. Et il y a un lien historique selon des gens, mais vu que c'est très récent, toutes ces recherches historiques, je leur donne le crédit qu'elles ont. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des gens qui y croient et qui réunissent tout ça et qui créent des réseaux pour qu'en fait, on puisse se rencontrer. Et il y a toute une solidarité entre compagnies qui se disent circassiennes que je trouve hyper belle, donc je trouve que c'est une réalité et qui pour moi très institutionnelle ou organisée, ou le fait que moi je connaisse des gens, c'est comme un réseau. Et c'est ça, je trouve aussi la beauté de cet endroit, c'est qu'il y a quand même des gens qui font des choses très 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 différentes. Donc c'est comme ça que je le définirais, le cirque contemporain.
Marco ?
J'ai à peu près le même type de réponse. C'est vraiment cette idée de milieu et de réunification de pratiques qui peuvent être effectivement assez variées. Je ne le résume pas à un autre endroit que ça. Et c'est un peu, ça résume un tout petit peu ce que je pouvais évoquer tout à l'heure avec cette idée de nommer les choses. C'est-à-dire, en fait, nous, nos créations, il y en a certaines où on ne sait pas exactement les nommer tellement les pratiques qu'elles regroupent, elles sont différentes. Et tellement la sensibilité qu'on apporte, elle est propre à nous-mêmes. Et du coup, j'ai l'impression que le cirque, ça peut tenter de faire un lien entre des gens qui auraient des pratiques ou des sensibilités qui seraient peut-être difficiles à définir et donc de les placer dans un certain endroit pour pouvoir être montrées, être financées et être produites.
Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Margot. Si nos auditeurs, et je les encourage, souhaitent suivre les aventures de Defracto, comment peuvent-ils vous suivre ? Comment peuvent-ils s'informer ?
Donc sur les réseaux sociaux de la compagnie qui sont actifs et mis à jour et sur lesquels on peut voir à la fois le travail de photographie, de reportage de Pierre, découvrir le travail de la compagnie, que ce soit la pédagogie, les créations en cours ou les spectacles qui sont joués. On essaye d'être à jour sur les dates également, donc qui annoncent les spectacles qu'on va tourner. Et il y a un site internet qui est en cours de création, enfin qui est déjà visible, mais qui permet aussi de pouvoir suivre le travail.
Merci beaucoup à vous et je vous dis merde pour la suite. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du podcast du Cirque de Riga. À bientôt.
Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.